car les gens faisaient la queue dans l'espoir d'embrasser la statue. À présent, c'était un médecin qui était à l'écran. Il évoquait les blessures sans gravité de 560 pèlerins durant la procession de cette année. On trouvait toutes sortes de lacérations. Les blessures typiques de ce genre de rassemblement, séquelles de flagellation, pieds écorchés. Le médecin était jeune, il avait l'air à cran. « Et les douleurs abdominales ?» lui demandait-on. « Manque d'hygiène alimentaire, » répondait-il. « Et les entorses ?»« Les mouvements de foule, encore une fois, la bousculade, les chutes, » constatait-il en soupirant. « Et les maux de tête ?»« La déshydratation, les gens ne boivent pas assez d'eau, » ajoutait-il avec un air de dédain. Et les centaines de pèlerins traités pour des étourdissements ou des difficultés respiratoires, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de marcher si longtemps. Il levait alors les bras au ciel, et Juan Diego avait l'impression de voir le docteur Vargas. Le jeune médecin semblait sur le point de lâcher « Leur pathologie majeure, c'est la religion. » « Et l'incidence des douleurs lombaires ?»« Elles peuvent avoir différentes causes, mais elles sont aggravées par les chocs dans les mouvements de foule. » Le médecin avait fermé les yeux. « Et l'hypertension ? Là aussi, les causes sont très diverses. » Il avait toujours les yeux fermés, liés à une très longue marche. Sa voix se perdait quand, tout à coup, il ouvrit les yeux et balança à la caméra « Je vais vous dire qui fait son profit de la procession du Nazaréen noir, les charognards. » Le mot ne pouvait que piquer au vif un ancien gosse de la décharge. Pour Juan Diego, il n'évoquait pas seulement les pepenadores du basurero, professionnel de la récupération des ordures ménagères comme il l'avait été lui-même, il lui inspirait une pensée bienveillante pour les chiens et les mouettes. Or, le jeune médecin réservait son mépris à la procession elle-même. En affirmant qu'elle constituait une aubaine pour les charognards, il voulait dire qu'elle profitait aux pauvres, ceux qui passaient derrière les pèlerins pour récupérer les bouteilles et les boîtes en plastique. « Ah oui, les pauvres !» songea Juan Diego. Il y avait assurément un lien historique entre l'Église catholique et les pauvres. Il était souvent en bisbille avec Clark French sur ce chapitre. Bien sûr que l'Église était sincère dans son amour des pauvres, comme le soutenait Clark. Juan Diego ne le niait pas, pourquoi l'Église n'aimerait-elle pas les pauvres? Mais quid du contrôle des naissances? C'était l'agenda social de l'Église catholique qui le mettait hors de lui. Les positions du clergé sur l'avortement, sur la contraception, soumettaient les femmes à l'esclavage des naissances non souhaitées et appauvrissaient les pauvres, puisque c'était eux qui faisaient le plus d'enfants. Juan Diego et Clark French avaient une ombre de différends à ce propos. S'ils parvenaient à éviter le sujet lors de la conférence du soir ou du dîner qui devait suivre, comment en faire l'économie quand ils se retrouveraient dans une église le lendemain matin? Comment ne pas en parler dans l'église Notre-Dame de Guadalupe à Manille? Comment éviter une controverse qui leur était à ce point familière? La perspective de cette discussion lui rappela qu'il aurait besoin d'adrénaline. Ce n'était pas seulement pour le sexe que son absence d'élan vital se faisait sentir depuis qu'il prenait des bêta-bloquants. Ses premières approches de l'histoire du catholicisme, il les avait eues dans les pages roussies de livres sauvés des brasiers de la décharge. Ancien pensionnaire des enfants perdus, il était convaincu de faire la différence entre les vrais mystères de la religion et les préceptes religieux élaborés par les hommes. S'il se rendait à Notre-Dame de Guadalupe le lendemain avec Clark, mieux valait sauter le l'oppresseur du soir. Une bonne décharge d'adrénaline ne serait pas du luxe pour visiter Guadalupe Viejo avec Clark French. Sans compter qu'il y aurait d'abord le double supplice de la conférence et du dîner. Prendre ou ne pas prendre ces bêta-bloquants, telle était la question. Le texto de Clark French tomba à pic pour répondre à ces tergiversations. « Finalement, je vais commencer par vous demander quel est l'auteur des œuvres de Shakespeare, car je sais que nous sommes d'accord sur ce point. Cela mettra en arrière-plan l'expérience personnelle comme unique base valable de l'écriture romanesque, sur laquelle nous sommes également en phase. Quant à ceux qui estiment que Shakespeare était quelqu'un d'autre, ils sous-estiment l'imagination ou surestiment l'expérience personnelle qui, pour eux, représente le fondement de la fiction autobiographique. Qu'en pensez-vous ? Pauvre Clark. Éternel adolescent systématiquement plongé dans la théorie, toujours à chercher la bagarre. Il me faut de l'adrénaline.
Beaucoup d'adrénaline.
Une fois de plus, Juan Diego allait sauter la prise des bêta-bloquants. Chapitre 32. Par-delà la baie de Manille. Ce que Juan Diego appréciait dans les causeries de Clark French, c'était son penchant à monopoliser la parole. L'inconvénient, c'était qu'il devenait lassant à la longue. Il était si pontifiant. Et quand il était d'accord avec vous, ça en devenait carrément gênant. Ils avaient lu récemment l'essai de James Shapiro, Contested Will. Who wrote Shakespeare? Le testament contesté, qui est l'auteur des œuvres de Shakespeare? Pour eux, comme pour l'universitaire américain, le Shakespeare de Stratford était bien le seul et unique auteur de ses œuvres. Ces pièces n'avaient pas été écrites par plusieurs auteurs ni par quelqu'un d'autre. Pourquoi Clark n'avait-il pas entamé la conférence par l'insertion qui conclut le livre? Je trouve indigne la thèse selon laquelle Shakespeare de Stratford n'avait pas l'expérience nécessaire pour écrire ses pièces. Indigne parce qu'elle dévalorise ce qui le rend exceptionnel, son imagination. Curieusement, son introduction fut une attaque en règle contre Mark Twain. La lecture contrainte de La vie sur le Mississippi, durant son parcours scolaire, avait causé une blessure quasi mortelle à son imaginaire. L'autobiographie de Twain avait failli compromettre à jamais ses ambitions littéraires. Les aventures de Tom Sawyer et les aventures de Huckleberry Finn auraient pu se résumer à un seul et même roman, voire une nouvelle, raillait-il. Dans la salle, le public ne comprenait pas l'objet de cette diatribe. D'autant qu'il n'avait pas encore été question de l'autre écrivain présent, à savoir Juan Diego. Mais à la différence des auditeurs, ce dernier anticipait déjà la suite. Le rapport entre Twain et Shakespeare restait à établir. Mark Twain, coupable désigné, croyait que Shakespeare ne pouvait en aucun cas avoir écrit les pièces qui lui sont attribuées. Il considérait ses propres romans comme de simples autobiographies. Selon Shapiro, Twain était persuadé qu'une grande œuvre romanesque, y compris la sienne, ne pouvait être qu'autobiographique. Cependant, au lieu d'établir le lien avec le débat sur Shakespeare et ses œuvres, qui était son propos, Clark s'obstinait à disserter sur le manque d'imagination de Mark Twain. Les auteurs sans imagination, qui ne savent rapporter que ce qu'ils ont vécu, sont incapables de concevoir que d'autres puissent avoir de l'imagination. Juan Diego n'aurait pas détesté disparaître. Il essaya de ramener son ancien étudiant à la question centrale. Mais qui est l'auteur des œuvres de Shakespeare, Clark? Shakespeare lui-même. Eh bien, le chapitre est clos. Les murmures, les petits rires discrets parurent étonner Clark, comme s'il avait oublié qu'il y avait un public dans la salle. Avant de le laisser poursuivre sa philippique contre le camp des crapules hérétiques pour qui les pièces de Shakespeare avaient été écrites par quelqu'un d'autre, Juan Diego essaya de commenter deux passages de l'excellent essai de Shapiro. Notamment, il n'y avait pas de mémorialiste au temps de Shakespeare. Et, de son vivant, et pendant plus d'un siècle et demi après sa mort, personne n'a lu ses œuvres comme autobiographiques. Heureux Shakespeare, s'écria Clark French. Un bras fluet se leva au milieu du public stupéfait. Celui d'une femme, presque trop petite pour être vue de la scène, d'une beauté frappante, encadrée qu'elle était pourtant par Myriam et Dorothy. Même de loin, les bracelets luxueux et voyants à ses poignets menus trahissaient la fortune de son ex-époux. « Pensez-vous que le livre de M. Shapiro est une pierre dans le jardin de Henry James ?» C'était la pauvre Leslie sans aucun doute. « Henry James !» s'écria Clark, comme si le grand romancier américain faisait lui aussi partie des bourreaux potentiels de son imagination juvénile. La pauvre Leslie, si gracile, sembla se ratatiner encore davantage sur son siège. Juan Diego fut-il seul à s'en apercevoir, ou Clark le remarqua-t-il aussi, que Leslie et Dorothy se tenaient par la main? Alors comme ça, Leslie ne voulait plus entendre parler de D. Déchiffrer la position de Henry James à propos de la paternité de l'œuvre de Shakespeare n'est pas ce qu'il y a de plus aisé, écrit Shapiro. Contrairement à Twain, James ne voulait pas aborder.